Chapitre 47. Château d'Ardis. Ada commença à s'inquiéter pour de bon le jour où Anna fêtait son premier vin, après qu'elle l'eut accompagnée jusqu'au pavillon Fax, où sa cadette entra escortée par un Voynix et deux serviteurs. Elle s'était fait du souci dès le surlendemain du départ d'Arman en compagnie de Daeman et de Savi. Elle ne s'attendait pas vraiment à le voir revenir pour l'embarquer à bord d'un vaisseau spatial. Ce n'était qu'un fantasme puéril qu'Arman lui-même ne prenait sans doute pas au sérieux, mais elle pensait voir revenir le Sony au bout de 2 ou 3 jours. Lorsque le 4e fut passé, le souci fit place à la colère. Au bout d'une semaine, l'inquiétude la rongeait à nouveau, une inquiétude plus grave, plus intense qu'elle n'en avait jamais connue, et elle commençait à passer des nuits blanches. Au bout de 2 semaines, elle ne savait plus quoi penser. Le matin du 14e jour suivant le départ des 3 compagnons, sans qu'aucun visiteur lui eût donné de leurs nouvelles, et les visiteurs se comptaient désormais par centaines à Ardis, Ada demanda à un Voynix de la conduire jusqu'au portail Fax en cabriolet, et après un instant d'hésitation, pourquoi serait-il dangereux de se faxer, elle se retrouva à Paris-Cratère et se dirigea vers le domi de la mère de Daeman. Cette dernière était morte d'inquiétude. Il arrivait parfois à Daeman de participer à des fêtes durant plusieurs semaines. Alors qu'il n'avait même pas célébré son premier vin, il était même parti 1 mois entier à la chasse aux papillons. Mais il faisait toujours savoir à sa mère où il se trouvait et quand il comptait rentrer. Et elle n'avait aucune nouvelle depuis 15 jours.
« Ne vous faites pas de soucis, » lui dit Ada en lui tapotant le bras. « Notre ami Arman veillera sur Daeman. Et Savi, la femme que nous avons rencontrée, veillera sur eux deux. »
La mère de Daeman se calma quelque peu, mais Ada était plus angoissée que jamais. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cet aller-retour à Paris-Cratère, et Ada, qui regrettait le départ d'Anna mais savait qu'elle serait en sécurité à la firmerie, était perdue dans ses pensées sur le chemin du retour. Durant le mois écoulé, le domaine d'Ardis avait subi une véritable invasion. Ada était revenue de Paris-Cratère à la nuit tombée, si bien que c'était la première fois qu'elle pouvait mesurer l'étendue du changement à la lumière du jour, et elle hoqueta de surprise. Plusieurs centaines de tentes multicolores entouraient le château planté sur sa colline. Au tout début, il n'y avait eu qu'une 20aine de personnes, en majorité des hommes, pour venir écouter Odysseus discourir dans le grand pré adjacent à l'édifice, mais elles étaient bien vite devenues des centaines, et voilà qu'elles étaient des milliers à affluer par fax. Le domaine d'Ardis ne disposait que d'une 12aine de cabriolets et de droskis, et ceux-ci, ainsi que les Voynix étrangement maussades, s'épuisaient à transporter les visiteurs à toute heure du jour et de la nuit, si bien que certains parmi les premiers auditeurs d'Odysseus se relayaient pour monter la garde devant le portail et encourager les nouveaux venus à parcourir à pied les 2 kilomètres les séparant du château, ce qu'ils faisaient sans rechigner. Et ils n'hésitaient pas non plus à repartir à pied, ramenant de nouveaux auditeurs quelques heures ou quelques jours plus tard, encore des hommes dans la majorité des cas. Alors que le droski d'Ada faisait halte dans l'allée encombrée qui menait à l'entrée du château d'Ardis, elle comprit que son domaine isolé n'était plus que l'une des sections d'une cité en pleine expansion. Parmi les nombreuses tentes, érigées par les Voynix, mais désormais entretenues par des hommes et des femmes, on en trouvait qui étaient affectées aux cuisines, aux repas, aux toilettes, Odysseus avait appris aux hommes à creuser des latrines à l'écart des autres tentes, et au couchage. La mère d'Ada, qui lui avait rendu visite lors de ses aménagements, avait été effarée par cette foule apparemment bien décidée à transformer Ardis en place publique, et elle s'était aussitôt faxée pour regagner sa demeure d'Oulambat et n'en plus revenir. Ada accepta la boisson fraîche que lui tendait l'un des permanents, un jeune homme nommé Rayman qui se laissait pousser la barbe, à l'instar de nombre de disciples, et se dirigea vers le champ où Odysseus discourait et répondait aux questions 4 ou 5 fois par jour, devant un auditoire sans cesse plus nombreux. Elle était tentée d'interrompre le stupide sermon de ce barbare arrogant pour lui demander, devant tout le monde, pourquoi il n'avait même pas pris la peine de dire au revoir à la jeune femme qu'il adorait comme un dieu. La veille au soir, durant la fête en l'honneur du premier vin d'Anna, on la célébrait le jour précédent l'anniversaire proprement dit et le départ en fax pour la firmerie, Odysseus avait tout juste daigné se montrer au dîner. Ada savait qu'Anna en avait été blessée. La jeune femme se croyait encore amoureuse de lui, bien qu'il ait semblé indifférent à ses sentiments. Lorsqu'ils étaient revenus de leur périple, elle ne quittait pas Odysseus d'une semelle, mais il paraissait à peine remarquer son existence. Quand il avait refusé l'hospitalité d'Ada pour s'édifier un campement dans la forêt, Anna avait tenté de l'y accompagner, mais il avait insisté pour qu'elle dorme dans le château. Durant la journée, pendant qu'Odysseus courait, s'exerçait et par la suite affrontait ses disciples masculins à la lutte, Anna était toujours dans les parages à courir, à grimper à la corde et même à se présenter pour la lutte. Pas une fois, Odysseus n'avait consenti à se mesurer à elle. Pendant la fête, nombre des invités rassemblés à table sous le grand chêne avaient prononcé un discours dans le respect de la tradition, félicitant Anna à l'occasion de son premier séjour à la firmerie, lui souhaitant une longue vie de bonheur et de bonne santé. Mais lorsqu'était venu le tour d'Odysseus, le vieil homme s'était contenté de déclarer « N'y va pas ». Plus tard, dans la chambre d'Ada, Anna avait donné libre cours à son chagrin, allant jusqu'à envisager de ne pas partir, de se dissimuler au serviteur présentement occupé à broder sa tenue de cérémonie, sauf qu'elle n'avait pas le choix, bien entendu. Tout le monde y allait. Ada y était allée, ainsi qu'Arman à 4 reprises. Même Daeman avait séjourné 2 fois à la firmerie, la première à l'occasion de son premier vin, la seconde suite à l'épisode de l'Allosaure. Tout le monde y allait. Ce matin-là, donc, lorsqu'Anna était descendue de sa chambre vêtue de sa robe de cérémonie en coton, ornée de la traditionnelle broderie représentant un caducé, 2 serpents guérisseurs enroulés autour d'un bâton, Odysseus ne s'était pas montré pour dire au revoir à la jeune femme. Ada avait été furieuse lorsqu'elle avait accompagné son ami jusqu'au pavillon Fax dans un des droskis du domaine d'Ardis. Anna avait versé quelques larmes, qu'elle avait tenté de dissimuler à Ada en détournant la tête. Anna était la jeune femme la plus courageuse que celle-ci ait jamais connue. Une artiste et une athlète, une sculptrice et une casse-cou. Mais elle ressemblait ce jour-là à une enfant perdue. « Peut-être qu'il fera attention à moi quand je serai revenue de la firmerie, » avait-elle dit. « Peut-être que demain je serai devenue une femme à ses yeux. »« Peut-être, » avait dit Ada. Mais elle songeait que les hommes étaient tous des cochons égoïstes et dénués de toute sensibilité, qui saisissaient la première occasion venue pour devenir encore pire. Anna avait paru si fragile lorsque les 2 serviteurs sortis du pavillon l'avaient prise par les bras pour l'emmener avec eux. La journée était splendide, le ciel d'un bleu limpide, une douce brise soufflait de l'ouest, mais Ada se sentait d'humeur aussi morose qu'un jour de pluie. Sans pouvoir comprendre d'où lui venait son angoisse, elle avait déjà vu partir quantité d'amis pour la firmerie, elle-même y était allée 1 fois, un séjour dont elle ne se rappelait qu'une immersion dans un bain tiède et douillet. Elle avait éclaté en sanglots lorsqu'Anna, après lui avoir adressé un ultime salut, avait disparu dans le portail Fax. Le trajet de retour jusqu'au château d'Ardis n'avait fait qu'intensifier la colère que lui inspiraient Odysseus, Arman et les hommes en général. Ainsi donc, Ada ne se sentait pas d'humeur à jouer les disciples aimantes lorsqu'elle alla dans le pré écouter Odysseus prêcher aux fidèles et aux curieux. Vêtue de sa tunique et chaussée de ses sandales, le petit homme barbu, son épée à ses côtés, était assis sur un arbre mort qu'il avait lui-même abattu, tandis qu'autour de lui, sur le flanc de la colline voisine du château, étaient rassemblés plusieurs centaines d'hommes et de femmes. Nombre d'hommes portaient une tunique semblable à celle d'Odysseus, avec le même genre de ceinturon en cuir. La plupart se laissaient pousser la barbe, une mode qui était restée inconnue d'Ada durant toute sa vie. Odysseus était occupé à répondre aux questions. Ada savait qu'il avait l'habitude de discourir 1 heure et demie après le lever du soleil, disparaissant ensuite pendant des heures pour revenir avant le déjeuner, reprenant ensuite la parole en milieu d'après-midi et répondant aux questions durant le long crépuscule. L'heure du déjeuner n'avait pas encore sonné. « Maître, pourquoi devons-nous savoir qui était notre père ? Cela n'a jamais été important jusqu'ici. » Le jeune homme qui posait cette question était un nouvel auditeur. Au cours du mois qui venait de s'écouler, Ada avait remarqué qu'Odysseus, lorsqu'il prenait la parole, avait tendance à lever les mains devant lui, pointant ses doigts vers son auditoire comme pour souligner son propos. Ses bras comme ses jambes étaient hâlés et puissants. Pour la première fois, Ada remarqua que certains des hommes barbus qui l'écoutaient étaient eux aussi bronzés et musclés. Odysseus avait aménagé dans la forêt ce qu'il appelait un parcours du combattant, troncs d'arbres, cordes et fosses boueuses, et exigeait que ses auditeurs les plus assidus s'y exercent au moins une heure par jour. La première fois qu'il s'y était essayé, la plupart des hommes et certaines des femmes n'y avaient vu qu'une amusette, mais ils consacraient désormais plusieurs heures par jour à l'exercice physique. Ada commençait à se poser des questions.
« Si tu ne connais pas ton père, comment pourrais-tu te connaître toi-même ? »
répondit Odysseus de cette voix posée mais ferme qui semblait porter aussi loin qu'il le jugeait utile.
« Je suis Odysseus, fils de Laërte. Mon père est un roi, mais aussi un homme de la terre. La dernière fois que je l'ai vu, le vieux était à genoux dans la glèbe, occupé à planter un arbre. Là où un autre, un géant vénérable, venait de tomber. En fait, c'est lui qui avait dû se résoudre à l'abattre, après avoir été frappé par la foudre. Si je ne sais pas qui est mon père, et le père de mon père, si j'ignore tout de la valeur de ces hommes, des valeurs pour lesquelles ils vivaient et étaient prêts à mourir, comment puis-je savoir qui je suis ?
Parle-nous encore de l'Arété, dit une voix au premier rang.
Ada reconnut Pétir, l'un des premiers visiteurs. Il n'avait rien d'un jeune homme. Il fêterait bientôt ses 80, pensait-elle. Mais sa barbe était déjà presque aussi fournie que celle d'Odysseus. Apparemment, il n'avait pas bougé d'ardis depuis qu'il avait entendu Odysseus pour la première fois, le deuxième ou troisième jour, lorsque les visiteurs n'étaient qu'un peu plus d'une dizaine.
L'Arété consiste simplement à rechercher l'excellence en toute chose, dit Odysseus. L'Arété, c'est tout simplement faire l'offrande de chacun de ses actes, comme s'il s'agissait d'un sacrifice adressé à l'excellence. C'est consacrer sa vie à rechercher l'excellence, l'identifier lorsqu'elle se présente, l'accomplir dans le cadre de sa vie.
Un nouveau venu installé au dixième rang, un homme plutôt corpulent auquel Ada trouva un faux air de Daeman s'esclaffa bruyamment.
Et comment parvenir à l'excellence en toute chose, maître? Et pourquoi le vouloir? Cela semble horriblement fatigant.
Il regarda autour de lui, persuadé de déclencher l'hilarité générale, mais tous le fixèrent en silence puis se retournèrent vers Odysseus. Le grec eut un sourire enjoué. Ses robustes dents blanches offraient un vif contraste avec sa peau bronzée et sa barbe grise, et déclara
« Tu ne peux pas parvenir à l'excellence en toute chose, mon ami, mais tu dois essayer. Et comment pourrais-tu ne point le vouloir ?»«
Mais il y a tant de choses à faire !» répliqua l'autre en riant. « On ne saurait les accomplir toutes. Il faut bien faire des choix et se concentrer sur les plus importantes. »
Il serra contre lui la jeune femme à ses côtés, sa compagne de toute évidence, et elle s'esclaffa à son tour, mais personne ne l'imita.
« Oui, fit Odysseus, mais c'est faire insulte à tes actes que de ne point y honorer l'Arété. Souhaites-tu manger ? Alors mange comme si le repas que tu prends était le dernier. Prépare ce repas comme si tu ne devais plus jamais voir la moindre nourriture. » Tu dois faire un sacrifice aux dieux. Effectue chaque sacrifice comme si la vie de ta famille dépendait de ton énergie, de ta dévotion, de ta concentration. Tu es amoureux. Alors aime, comme si l'amour était ce qu'il y a de plus important en ce monde. Mais n'oublie pas que ce n'est qu'une étoile parmi d'autres dans cette constellation d'excellence qu'est l'Arété.
« Je n'ai pas compris ce qu'était l'Agone, Odysseus, »
dit une jeune femme au troisième rang. Ada reconnut Paëne. Elle était fort intelligente et de tempérament sceptique, mais c'était son quatrième jour à Ardis.
« L'Agone, c'est tout simplement la comparaison des choses entre elles, l'une avec l'autre, »
dit Odysseus d'une voix posée, afin de déterminer si elles sont égales, inférieures ou supérieures.
Toute chose en ce monde participe de la dynamique de l'Agone.
Il désigna le tronc d'arbre sur lequel il était assis.
Cet arbre était-il d'une valeur supérieure, inférieure ou égale à la valeur de celui-là?
Il montra un arbre de belle taille au sommet de la colline, à la lisière de la forêt. Quelques voynix se tenaient sous ses branches. Les voynix refusaient de s'approcher d'Odysseus.
« Cet arbre-là est vivant !» lança l'homme corpulent. « Il a forcément plus de valeur qu'un arbre mort !»«
Ce qui est vivant a-t-il forcément plus de valeur que ce qui est mort ?» rétorqua Odysseus. « Nombre d'entre vous ont coiffé le Turin et assisté à la guerre qui s'y déroule. Un marchand de fumier vivant de nos jours. Est-il supérieur à Achille, même si celui-ci est mort à présent ?»«
Tu compares des choses qui ne sont pas comparables !» protesta une femme.
« Non, » fit Odysseus, « tous deux sont des hommes. Tous deux sont venus au monde. Tous deux doivent le quitter. » Peu importe que l'un respire encore et que l'autre réside désormais dans le royaume d'Hadès. On doit pouvoir comparer les hommes entre eux ou les femmes entre elles. Et c'est pour cela que nous devons connaître nos pères, nos mères, notre histoire, nos histoires.
Eh bien, l'arbre sur lequel tu es assis est toujours mort, maître, déclara Pétyr.
Cette fois-ci, plusieurs personnes rirent de bon cœur. Odysseus se joignit à elles. Il désigna un moineau qui venait de se poser sur l'une des rares branches qu'il n'avait pas coupées sur l'arbre mort.
« Non seulement il est toujours mort, mais il est nouvellement mort. Mais l'utilité de cet arbre, son utilité en termes d'agone, surpasse déjà celle de cet arbre vivant, du moins pour cet oiseau, pour les insectes occupés à ronger l'écorce de ce géant abattu, pour les mulots, les campagnols et autres créatures qui viendront vivre dans cet arbre mort.
Qui juge de l'agone en dernière instance ?
Demanda un homme mûr à l'air grave assis au cinquième rang.
Les oiseaux, les insectes ou les hommes ?
Tous, répondit Odysseus. Chacun à son tour. Mais le seul juge qui compte, c'est toi.
N'est-ce pas arrogant ?
Demanda une femme en qui Ada reconnut une amie de sa mère.
« Qui nous a élus juges ? Qui nous a donné le droit de juger ?»«
L'univers t'a élu à l'issue de 15 milliards d'années d'évolution, » dit Odysseus. « Il t'a donné des yeux pour voir, des mains pour tenir et soupeser, un cœur pour ressentir, un esprit pour apprendre les règles du jugement. » Et une imagination pour considérer le point de vue des oiseaux, des insectes, et même des autres arbres. Et pour prononcer ton jugement, tu dois te laisser guider par l'arrêté. C'est ce que font déjà les oiseaux, les insectes et les arbres. Fais-moi confiance. Dans leur monde, il n'y a pas de temps à perdre en médiocrité. Ils ne s'inquiètent pas d'une quelconque arrogance dans leur jugement. Qu'il s'agisse pour eux de choisir une compagne, un ennemi ou un nid.
Odysseus montra à nouveau l'arbre mort où le moineau venait de disparaître dans un trou.
« Maître, dit un jeune homme au sein de la foule, pourquoi demandes-tu aux hommes de s'affronter à la lutte au moins une fois par jour ?»
Ada en avait assez entendu. Elle vida son verre et reprit la direction du château, s'arrêtant sur le perron pour contempler la pelouse où des douzaines d'autres visiteurs, d'autres disciples, discutaient ensemble en marchant. Une chaude brise faisait frémir la toile des tentes. Les serviteurs allaient d'une personne à l'autre, mais rares étaient celles qui acceptaient leurs offres de nourriture ou de boisson. Odysseus avait demandé à ceux qui souhaitaient l'écouter de se dispenser de leur service, ainsi que de ceux des Voynix. Au début, cela avait poussé plusieurs visiteurs à repartir, mais ils étaient de plus en plus nombreux à rester. Ada leva les yeux vers le ciel azur, remarqua les cercles pâles dessinés par les deux anneaux orbitaux et pensa à Harman. Elle avait été furieuse contre lui lorsqu'il avait évoqué le processus par lequel les femmes choisissaient le sperme d'un homme donné des mois, voire des années ou des décennies après l'accouplement initial. On ne parlait pas de ces choses-là, sauf entre mère et fille, et une seule fois suffisait. Sans parler de ce bobard à propos des gènes de Phalène, comme si les femmes ne choisissaient pas le père de leur enfant depuis des temps immémoriaux. Harman s'était montré tellement...
obscène en abordant ce sujet. Mais c'était sa volonté affichée d'être le père de l'enfant d'Ada, non seulement d'être celui dont elle choisirait le sperme, mais d'être présent aux côtés de l'enfant, d'être connu en tant que son père, qui l'avait déconcerté et offusqué, au point qu'elle l'avait laissé partir avec sa vie et Daeman sans lui adresser le moindre mot gentil. En fait, elle avait eu pour lui des mots et des regards franchement méchants. Ada palpa son ventre. La firmerie ne lui avait pas envoyé de serviteur pour l'aviser que le temps de sa grossesse était venu, mais d'un autre côté, elle n'avait pas demandé à figurer sur la liste des postulantes. Elle se félicitait de ne pas encore avoir à choisir entre plusieurs... Comment Harman l'avait-il formulé ? Entre plusieurs paquets de sperme. Mais elle repensa à lui, ses yeux aimants et intelligents, sa fermeté tempérée de tendresse, son corps mature mais vigoureux, et palpa à nouveau son ventre. « Harman, » chuchota-t-elle pour elle-même. « Fils d'Harman et d'Ada ?» Elle secoua la tête. Les stupides discours d'Odysseus lui mettaient dans l'esprit des idées ridicules. La veille, rassasiée à l'issue de la fête, après que les centaines de disciples eurent gagné les tentes ou le pavillon Phax, surtout les tentes, elle avait abordé Odysseus pour lui demander de but en blanc combien de temps il comptait encore rester au domaine d'Ardis. Le vieil homme lui avait adressé un sourire presque triste. « Pas très longtemps, ma chère. »
« Une semaine ? Un mois ? Un an ?»«
Beaucoup moins. » »« Jusqu'à ce que le ciel se mette à tomber, Ada. » »« Jusqu'à ce que de nouveaux mondes apparaissent dans ta cour. »
Vexée par tant d'insolence, Ada avait réfréné son envie d'ordonner aux serviteurs de chasser sur le champ le barbare velu et s'était réfugiée dans sa chambre, la seule partie du château d'Ardis où elle pouvait encore préserver son intimité, où elle avait passé une nouvelle nuit blanche, furieuse contre Harman, peinée par son absence et inquiète de son sort, sans prendre la moindre initiative à l'encontre d'Odysseus. Alors qu'elle se retournait pour entrer dans le château, un mouvement à la lisière de son champ visuel la figea sur place. Elle crut tout d'abord que c'était les anneaux qui tournaient, comme à leur habitude. Puis elle regarda mieux et vit une traînée blanche dans le ciel, comme une ligne tracée par un diamant sur du vert couleur azur. Puis il y en eut une autre, plus large et plus vive, et une autre encore si éclatante qu'Ada distingua les flammes qui marquaient son passage. Quelques secondes plus tard, trois chocs sourds résonnaient au-dessus de la pelouse, amenant les disciples à lever les yeux vers le ciel et les serviteurs et les Voynix eux-mêmes à interrompre leurs activités. Ada entendit des cris et des hurlements en provenance de la colline. Sur la pelouse, les gens pointaient le ciel du doigt. Plusieurs vingtaines de lignes sillonnaient maintenant le ciel d'azur, des traits éblouissants, flamboyants, des déchirures écarlates qui zébraient l'espace d'ouest en est, tantôt accompagnées de bouquets d'explosions multicolores, tantôt de grondements et de fracas terrifiants. Le ciel était en train de tomber.